Orient Hebdo, Mathias Golchani, Éric Bataillon.
Une guerre asymétrique d'une rare violence entre Israël et le Hamas déchire deux peuples qui pourtant vivent sur une même terre. Dans son dernier livre « Pourquoi la Palestine fut perdue et pourquoi Israël n'a pas gagné », l'historien Jean-Pierre Filliu décortique la mécanique cyclique de ce conflit interminable. Si les factions ont affaibli le nationalisme palestinien, par ailleurs instrumentalisé par l'ensemble des régimes arabes, c'est bien l'option militaire récurrente choisie par Israël qui a mené à l'impasse que l'on connaît aujourd'hui. Pour Jean-Pierre Filliu, l'option de sortie de crise doit être politique, la solution à deux États. Un entretien pour cette ultime émission d'Orient Hebdo à retrouver en podcast sur notre site RFI.fr ainsi que sur notre application Pure Radio. Je tenais également à remercier Mathias Golchani pour sa collaboration depuis 2017. Bonjour Jean-Pierre Filliu.
Bonjour Éric Bataillon.
En quoi le sionisme est-il historiquement chrétien, ainsi que vous l'avancez dans le premier chapitre de votre livre ?
C'est effectivement une des découvertes que j'ai faites en recherchant pour cet ouvrage, parce que j'apprends beaucoup de choses dans mes recherches. Je n'ai pas d'idées préconçues. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait un sionisme chrétien antérieur de plusieurs décennies au sionisme juif, donc fondé par Théodore Herzl au congrès de Bâle en 1897, et que, en fait, depuis des décennies, dans le protestantisme anglo-saxon, il y avait cette conviction très enracinée que la restauration, c'était le terme employé, du peuple juif sur sa terre, donc la terre d'Israël, participait de l'accomplissement des prophéties. Donc, historiquement, dogmatiquement, ce sionisme chrétien est bien antérieur et beaucoup plus populaire dans le protestantisme anglo-saxon que le sionisme juif ne va l'être dans le monde juif.
Notamment avec un certain révérend Bush.
Oui, alors le révérend Bush...
Qui a un lien avec les deux anciens présidents.
Voilà, c'est le cousin de l'arrière-arrière-grand-père de George Herbert et George W. Bush. Il était professeur d'hébreu à New York, à l'époque où il y avait seulement quelques milliers de juifs sur l'ensemble du territoire américain. Donc il ne les connaissait pas personnellement, mais il fantasmait au sens propre, et il fantasmait la Terre Sainte, et le livre reproduit sa carte qui est quand même incroyable, qui est une carte de la terre d'Israël sans aucun arabe réparti entre les tribus d'Israël.
La déclaration Balfour est-elle le point de départ du rapport de force défavorable aux Palestiniens qui va s'installer par la suite ? Balfour qui, en cela, rejoint finalement l'opinion de Théodore Herzl sur les populations de Palestine.
Oui, alors Balfour est un sioniste chrétien, il le revendique. Et donc en 1917, il va officialiser le soutien du gouvernement britannique à l'établissement, je cite, d'un foyer national juif en Palestine. Or, cette déclaration Balfour, elle ne mentionne même pas les populations arabes, elle parle des communautés non-juives et elle ne leur reconnaît aucun droit national. Donc, on peut effectivement dater de ce texte fondateur. Il y a donc 107 années, ce rapport de force qui est toujours aussi défavorable aux Palestiniens.
La question cachée que vous évoquez dans votre livre a-t-elle entaché l'installation juive, et cela dès ses débuts ?
Alors la question cachée, c'est ainsi que les militants sionistes, les cadres sionistes, les dirigeants sionistes parlent des Arabes de Palestine, parce que en fait, ça n'est jamais prioritaire. L'essentiel est l'acquisition de la terre, l'organisation de l'immigration, et au fond, on ne se pose pas vraiment la question du rapport à terme avec la population autochtone. On pense qu'elle se ralliera aux bienfaits économiques de ce type de colonisation. Mais on essaie surtout de corrompre, d'acheter. On n'envisage pas de grande réconciliation avec le peuple local.
À partir de 1947, le conflit judéo-palestinien se transforme en conflit israélo-monde arabe. Quel rôle ont joué les mouvements juifs extrémistes à cette époque ?
Alors, le Yishuv sioniste, l'établissement juif en Palestine, en 1947, représente un tiers de la population locale. Il est largement dominé par le Parti travailliste et sa milice, la Haganah. Mais il y a effectivement deux groupes extrémistes, l'IRGUN, l'organisation, et le LEI, qui est l'acronyme des combattants pour la liberté d'Israël, qui refuse le plan de partage avec un État arabe, qui de toute façon ne verra jamais le jour, et qui, eux, vont mener des attentats contre la population locale pour la terroriser, ce qui va effectivement contribuer à l'exode, à ce que les Palestiniens appellent la Nakba, la catastrophe.
Benjamin Netanyahou est-il l'héritier lointain de ces mouvements extrémistes ? Vous le qualifiez de grand refondateur.
Le père de Benjamin Netanyahou, Benzion, était le secrétaire particulier de Zev Jabotinsky, qui est le fondateur et l'inspirateur de cette mouvance révisionniste, donc opposée au travaillisme socialiste, qui a donné cette milice, l'Irgun, qui était d'ailleurs dirigée par Menahem Begin, qui deviendra en 1977, Premier ministre d'Israël, mettant un terme à trois décennies d'hégémonie travailliste sur l'État juif. Et Netanyahou est très influencé par son père, et il est effectivement cet héritier, je le qualifie de refondateur, parce que face à David Ben-Gourion, le fondateur de l'État d'Israël, il va refonder l'État d'Israël sur les bases qui sont celles de la doctrine révisionniste, longtemps minoritaire et désormais dominante au gouvernement israélien.
On ne doit donc pas s'interroger sur le fonctionnement de Benjamin Netanyahou aujourd'hui avec sa collusion avec les partis extrémistes et notamment religieux.
J'avais, dès 2019, consacré une biographie à Netanyahou et je l'appelais « Main basse sur Israël ». C'est-à-dire que tout ce qui lui permet de rester au pouvoir, et sa longévité est impressionnante, hein, 1996-1999, 2009-2021, et de nouveau depuis décembre 2022. Et à chaque fois, il a des alliances de circonstances, désormais avec les suprémacistes, hein, qui sont ouvertement racistes et annexionnistes. Et on peut largement comprendre la poursuite de la guerre en cours par sa détermination à rester coûte que coûte au pouvoir.
Jean-Pierre Chélieu, l'accord de Camp David en septembre 1978 est-il le coup de grâce donné par Menahem Begin, dont vous avez parlé à l'instant, qui était alors Premier ministre, à un éventuel État palestinien ?
Alors, il faut voir que les États arabes ont longtemps combattu l'expression d'un mouvement national palestinien autonome et qu'au fond, on a tous suivi ce pas de côté en considérant que le conflit israélo-arabe était central et pas la question palestinienne. Donc quand il y a une paix séparée entre Israël et l'Égypte, effectivement, tout le monde célèbre cette première paix israélo-arabe, mais Begin a refusé non seulement toute concession aux Palestiniens, mais il se sert de la paix avec l'Égypte pour en fait consolider l'occupation et la colonisation.
Et donc l'Eretz Israël de Netanyahou est l'héritier direct, selon vous, de Camp David, c'est-à-dire une colonisation rampante ?
Colonisation rampante à l'époque, aujourd'hui beaucoup plus affirmée. Donc Eretz Israël, ça veut dire la terre d'Israël, mais pour Begin hier, pour Netanyahou aujourd'hui, ça veut dire effectivement l'ensemble du territoire de la Palestine sous mandat britannique de 1922 à 1948, et donc l'absence de souveraineté palestinienne digne de ce nom dans cet espace.
Et selon vous, ce processus pourrait-il s'arrêter d'une manière ou d'une autre ?
On voit bien que Netanyahou n'a pas d'autre horizon. D'ailleurs, ce qu'il dit sur le jour d'après à Gaza n'a aucune réalité concrète. Il est dans l'idéologie et c'est cela qui est très inquiétant. C'est que cet aveuglement qui a conduit à l'effondrement de la défense israélienne le 7 octobre 2023 face à la campagne terroristes et barbares du Hamas, cet aveuglement, il continue. Or, il n'y aura pas de solution militaire. Et c'est la conclusion de mon livre. Si Israël veut gagner, Israël doit avoir cette coexistence pacifique avec un État palestinien démocratique et démilitarisé. Il n'y aura pas de solution militaire et il n'y aura pas, comme il n'y a jamais eu, de victoire militaire dans le conflit avec les Palestiniens.
Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Vous écoutez Orient Hebdo, émission magazine de RFI, dont cette édition est la toute dernière. Avec nous en studio, l'historien Jean-Pierre Filiu pour son livre « Comment la Palestine fut perdue et pourquoi Israël n'a pas gagné », livre publié aux éditions du Seuil. Jean-Pierre Filiu, après une première partie consacrée aux trois forces israéliennes, un sionisme historiquement chrétien, un pluralisme de combat et une stratégie du fait accompli, votre seconde partie explore les trois faiblesses palestiniennes et en premier lieu, la question de l'identité, quel est le problème en la matière? Vous employez l'expression « illusion arabe ».
Oui, à Paris en 1913, le congrès fondateur du nationalisme arabe marque déjà une forme de pression des autres Arabes sur les Palestiniens qui voulaient mettre la question sioniste à l'ordre du jour et c'est totalement refusé. Et donc on va voir en permanence cette tension entre soit le panarabisme qui nie l'identité palestinienne propre, soit les intérêts des différents régimes arabes avec ce qui est le nationalisme palestinien. Et ce déni de la réalité palestinienne, il va être déterminant après ce que les Palestiniens appellent la Nakba, la catastrophe. Donc effectivement, il y a la fondation de l'État d'Israël sur 77% de ce qui était la Palestine mandataire, mais il y a l'annexion par la Jordanie de Jérusalem-Est et de la Cisjordanie, donc de 22%, tandis que l'Égypte administre la bande de Gaza, mais sans la remettre à une autorité palestinienne. Donc on voit que dès le début, cette illusion arabe va beaucoup peser sur les Palestiniens et il faudra vraiment toute l'obstination de Yasser Arafat pour que 25 ans plus tard, il prenne la tête de l'Organisation de libération de la Palestine comme instrument autonome de ce nationalisme palestinien.
Précisément sur cette question de l'identité, on évoque souvent des Palestiniens musulmans face à des Israéliens juifs. Or, un nombre non négligeable de Palestiniens sont chrétiens. Qui est responsable de cette islamisation de la question palestinienne ?
Alors d'abord, il y a évidemment les préjugés, sans parler de la propagande de combat qui viserait à dénier la légitimité du nationalisme et à assimiler les Palestiniens à l'islamisme. Mais il y a aussi un processus simple qui est que quand un conflit territorial perd justement sa dimension politique, eh bien la religion occupe le terrain et on l'a vu sur la scène palestinienne. Quand l'OLP, donc l'Organisation de libération de la Palestine, n'a pas tenu les promesses du processus de paix et que ça a donc permis la montée en puissance du Hamas, c'est-à-dire la branche palestinienne des frères musulmans.
Jean-Pierre Filiu, le nationalisme palestinien est-il gangréné par les factions qui le composent ?
Là aussi, c'est une des grandes découvertes pour moi, j'insiste, de mes recherches. Bon, ça fait quand même 4 décennies que j'arpente la scène palestinienne, mais je ne mesurais pas la profondeur de l'enracinement de ces factions. Il y a à la fois une profondeur anthropologique dans la société paysanne et traditionnelle. Et puis après, il y a les factions fedayines, les factions de l'OLP, FPLP, FDLP, FLA, FPLP-CG, FLPP, sans même parler évidemment du Fatah et du Hamas, dont aujourd'hui la polarisation paralyse complètement le mouvement palestinien. Et ces factions ont représenté un mécanisme de survie pour les réfugiés dans l'exil forcé où ils se trouvaient, mais elles en viennent aujourd'hui à devenir la loyauté principale au lieu que celle-ci aille au patriotisme palestinien proprement dit.
Justement, est-ce que depuis le 7 octobre dernier, la situation n'a pas évolué favorablement, notamment pour le Hamas dont vous parliez ?
Je suis extrêmement réservé sur les enquêtes d'opinion concernant tel ou tel aujourd'hui parce que la situation est trop dramatique, l'horizon est trop bouché. Il est évident que s'il y a une dynamique politique, ceux qui prêchent une solution politique reprendront le dessus. S'il n'y a que la confrontation, eh bien à ce moment-là, des discours radicaux et la surenchère extrémiste du Hamas prévaudra. Mais il faut bien voir que si on en est arrivé à cette tragédie atroce aujourd'hui, c'est parce qu'en 2021, au printemps 2021, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, dont le mandat est échu depuis de trop longues années, donc il n'y a plus de légitimité démocratique, eh bien, il a annulé le projet d'élection qui devait se dérouler, élection présidentielle, élection législative. Or, à ces élections, il est pratiquement sûr que le Hamas aurait perdu Gaza et que donc la voie politique aurait été beaucoup plus efficace pour marginaliser ce mouvement que les armes, comme on le voit aujourd'hui.
Perdu au profit de qui ?
Alors, sans doute du Fatah et de l'OLP, mais surtout de ce qu'on appelle la troisième voie qui avait été au cœur de cet accord pour les élections. Alors cette troisième voie, justement, elle refuse la polarisation entre les uns et les autres et elle émane généralement de personnalités de la société civile dont la polarisation actuelle entre le Hamas et le Fatah, évidemment, fait taire la voie.
Troisième faiblesse palestinienne, Jean-Pierre Filu, le deux poids, deux mesures, est-ce cela qui a conduit à transformer Gaza en une prison à ciel ouvert ?
Alors, prison à ciel ouvert, c'est Nicolas Sarkozy qui emploie cette expression. En 2008, ça fait un an qu'un blocus est imposé à la bande de Gaza et à ses plus de 2 millions d'habitants par Israël, mais aussi, il ne faut jamais l'oublier, par l'Égypte, à la frontière sud. Donc, on a cru qu'on pouvait vivre avec ce blocus éternellement. Et ce blocus a effectivement duré 16 ans. Et ce blocus a permis au Hamas de quadriller la bande de Gaza, alors qu'il y avait beaucoup d'opposition à sa domination, et a permis dans un deuxième temps, au plus dur du Hamas, de l'emporter. Yahya Sinwar, le cerveau du 7 octobre. Donc on voit bien que la vision purement humanitaire d'une bande de Gaza dont on accepte le blocus, non seulement n'adoucit en rien les souffrances des Palestiniens, c'est encore pire aujourd'hui, mais évite de poser la seule question qui doit être posée, c'est quel est l'avenir politique et évidemment, comment revient-on à la solution à deux États ?
Et justement, Jean-Pierre Filu, qu'est-ce qui vous permet de dire qu'Israël n'a pas gagné militairement ? Israël a notoirement le dessus, et notamment à Gaza, et aussi en Cisjordanie.
Mais le rapport de force ne garantit pas la sécurité, sinon il n'y aurait pas eu le 7 octobre et son bain de sang qui va traumatiser pendant longtemps la population israélienne. Donc la supériorité militaire ne vaut pas victoire. La victoire ne peut être que politique. Comme historien, j'ai recensé 15 guerres d'Israël à Gaza depuis 1948. Elles ont toutes été remportées militairement par Israël, mais elles ont toutes été perdues politiquement, sauf une seule, la première intifada de 1987 à 1993, parce qu'Itzhak Rabin, le premier ministre de l'époque, a choisi la voie de la paix avec Yasser Arafat, le chef de l'OLP, et donc on est sorti du perdant-perdant pour aller vers le gagnant-gagnant. Et aujourd'hui, c'est évidemment la seule solution d'avenir pour les deux peuples. Quel que soit le rapport de force entre eux, on a pratiquement une parité démographique entre juifs et arabes sur cette terre.
Et pour vous, la solution gagnante, c'est une solution à deux États ?
C'est la seule. Parce qu'à partir du moment où on a autant de juifs que d'arabes, on voit bien que la coexistence ne peut s'organiser de manière pérenne, durable, avec des bénéfices pour les deux parties, que sur la base de la reconnaissance du nationalisme et de sa légitimité pour les deux parties. C'est la clé du processus d'Oslo. C'est la reconnaissance mutuelle et simultanée entre Israël et l'Organisation de libération de la Palestine. Tandis qu'aujourd'hui, on a à l'évidence une domination israélienne, mais qui, à l'évidence, ne garantit pas la sécurité à laquelle les Israéliens aspirent légitimement. Donc la solution à deux États, non seulement ne représentera pas une concession insupportable de la part d'Israël, mais représentera la seule victoire que l'État d'Israël pourra garantir et à laquelle il peut en effet aspirer.
Merci Jean-Pierre Filu.
Merci à vous Éric Bataillon.
Professeur des universités en histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po Paris. Votre livre « Comment la Palestine fut perdue et pourquoi Israël n'a pas gagné » est publié aux éditions du Seuil. On peut également lire votre chronique hebdomadaire « Ainsi Proche-Orient » sur le site du journal Le Monde. Orient Hebdo, merci de nous avoir accompagnés pendant ces 11 années d'existence du magazine. Prenez soin de vous. Dans un instant, le journal.